Et Pascal, c'est pas terminé parce que Stephen Blaney vient de sortir. Coudonc, M. Blaney paye des taxes aussi.
Oui, mais je pense qu'il est un peu fatigué que des gens comprennent pas son travail actuellement. Puis une des citations qui ressort du point de presse où Mathias est allé, c'est hey, « Moi aussi, j'en paye des taxes à Lévis. »
Ben oui.
C'est « Oubliez pas, là. »
Non, 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 n'oublie pas ça. Mais vous avez la responsabilité aussi en tant que maire de trouver des pistes de solutions, même si c'est l'ancien maire qui a tout foiré pour M. Blaney. Ah, M. Gilles Lehoulier qui se pensait tellement un maire intouchable.
Mais tu sais, des fois, tu vois d'anciens politiciens commenter le travail de certains qui sont encore en poste. Puis Régis Labeaume l'avait fait dans une émission de télévision quand on lui avait posé la question. Puis même lors des dernières élections, tu sais, il disait, je veux pas être la belle-mère puis commencer à jaser, mais aussitôt, il continue puis il commence.
C'est ça, exactement.
Puis c'était un des points. Il avait l'air un peu... puis il était en chicane à la fin avec M. Lehoulier quand même de son mandat là, à la Ville de Québec. Mais il avait l'air très critique à l'endroit de Gilles Lehoulier. Est-ce qu'il a vu, il a su, il jasait... Puis il voyait un peu que bien que ça se développait comme le 10-30, Lévis puis la Rive-Sud... Même si bien des gens disaient « Wow, il change tellement d'affaires, il nous met sur la map à Lévis », peut-être que Régis Labeaume voyait ce qu'en arrière ne suivait pas.
Ah, exactement. Puis c'est toujours le problème des municipalités ou encore des pays, des provinces. Lorsqu'on met au pouvoir quelqu'un avec un trop haut pourcentage de vote, bien, cette personne-là se pense tout permis. Ça brasse énormément en immigration au Québec avec le programme d'expérience Québec qui a été coupé et remplacé par le programme pour les travailleurs spécialisés qualifiés. Mais là, ça rebondit jusqu'à Ottawa, alors que Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada, réclame la démission de la ministre Léna Diab. Ça va bien parce qu'on a M. Paulus en ligne à l'heure actuelle. M. Paulus, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Monsieur Paulus, pourquoi réclamez-vous la démission de la ministre de l'Immigration du Canada?
Par par pure incompétence. Honnêtement, notre semaine a commencé, nous autres, à Ottawa, avec une motion d'opposition. On avait une journée de débat lundi sur le programme fédéral de santé intérimaire, des subventions de l'argent qui va pour la santé des demandeurs d'asile qui sont déboutés. On est rendu à près d'un milliard par année, puis ça fonctionne pas du tout. On a poussé le gouvernement là-dessus. Puis en même temps, hier, par hasard, il y a un article de Radio-Canada qui sort qui démontre que les 10 députés libéraux sont pleins à Radio-Canada, que leur ministre ne connaissait pas son dossier, elle connaît rien, elle n'a pas d'idée comment c'est la structure, les chiffres, les données, les organismes également qui font affaire avec le ministre de l'Immigration fédérale n'ont aucune communication. Donc, tout ça ensemble, on dit OK, là, ils se dépensent des milliards tout croche d'un côté. De l'autre côté, on apprend que même les libéraux disent c'est assez de cette ministre-là. Donc, hier, nous autres, on a dit, regardez, 1+1, là, ça fait 2. Là. Je pense que ce dossier-là est tellement important. Là. C'est tellement problématique au Canada, la gestion de l'immigration. C'est, depuis 10 ans, c'est une folie. Là. En ressources humaines mal gérées, en immigrants eux-mêmes qui ont des problèmes à nos bureaux de comté, on reçoit des gens tous les jours qui viennent nous voir parce qu'il y a des problèmes de renouvellement de permis, tout est en retard. Puis là, tu as une ministre, sa responsabilité première, c'est de voir à ça. Puis elle nous répond à la paire de questions. Alors, vous savez, c'est difficile ce travail-là. Écoute, madame, là, vous n'avez pas les compétences pour faire le travail, faites d'autres choses. Là. Vous n'êtes pas obligé d'être ministre de l'Immigration, c'est trop dur pour vous. Là.
On a aussi appris par Radio-Canada qu'il y avait énormément de dossiers de demandeurs d'asile qui avaient été acceptés sans enquête, sans entrevue avec ces gens-là. Est-ce que vous avez une crainte pour la sécurité des Canadiens et Canadiennes?
Ben, oui, mais oui. Puis ça, j'ai travaillé longtemps. Moi, j'étais porte-parole de sécurité publique pendant 3 ans dans les grandes années du chemin Roxham. Puis j'étais allé 3 fois là-bas. Puis on avait des questions là-dessus pour nous confirmer à l'époque. Inquiétez-vous pas, chaque personne qui rentre, on fait une vérification. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a plusieurs qui rentrent, qui n'ont même pas de papier. Ils laissent, ils jetaient leurs papiers dans les fossés du côté américain pour arriver au Canada avec rien. Fait qu'il y avait un travail de recherche à faire pour identifier c'était qui cette personne-là. Puis il y en a qui étaient même arrêtés à l'époque parce qu'on découvrait, s'ils avaient gardé leur téléphone cellulaire, on découvrait même qu'il y avait des amateurs de pornographie juvénile ou des criminels. Bon. Mais là, d'apprendre que finalement, ce processus-là ne s'est pas fait pour 25 000 personnes. Fait que 25 000 personnes sont arrivées au pays, ils ont demandé l'asile, puis il n'y a personne qui les a rencontrés. Puis, là, ils ont fini par avoir une autorisation de rester ici, puis de se faire dire, bon, bienvenue au Canada, sans savoir qui sont ces gens-là. Ça ne fonctionne vraiment pas. Puis je comprends que le gouvernement peut avoir été débordé parce qu'on a on a on est rendu juste au Québec, il y a 200 000 personnes qui sont des demandeurs d'asile, qui sont actuellement sur notre territoire en attente de décision dans leur dossier. Mais là, que tu en es 25 000, c'est du monde, là, 25 000. Là. On remplit le stade de centre Vidéotron, là, il n'y a même pas 25 000 places dedans quand il est plein. Là. Vous comprenez que c'est beaucoup de monde qu'on n'a pas d'idée qui sont vraiment. C'est qui ces gens-là, probablement qu'on a leur nom, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, pourquoi ils demandent l'asile, puis pourquoi surtout qu'on leur a donné l'autorisation de rester au pays sans savoir vraiment c'est quoi leur histoire. Parce que c'est ça, quand tu fais une demande d'asile en premier, hein, tu dois compter ton histoire, d'où tu viens, oui, pourquoi tu es en danger, qu'est-ce qui fait que tu peux pas rester dans ton pays. Ces questions-là sont importantes pour déterminer si on mérite d'avoir l'asile au Canada. Puis ça, ça n'a pas été fait. Puis à travers ça, bien évidemment, des criminels, on sait qu'à l'époque, il y avait même des gens du MS-13, des groupes de criminels mexicains qui sont rentrés au Canada de cette façon-là, qui étaient à Montréal, entre autres.
C'est là, M. Paulus, où c'est un peu dérangeant au niveau de la crédibilité du pays par rapport à cette immigration-là, parce que si on veut être un pays fort, assurément, l'immigration, on en a besoin. On a envie aussi d'être un pays, somme toute, pacifiste, être capable d'être social aussi, avec des mesures qui sont sociales. Mais c'est pas discriminatoire de demander l'histoire à la personne. En plus, ça peut orienter cette personne-là vers des soins, des services qui vont être appropriés. Par contre, le fait qu'on soit une passoire, quand vous dites « oui, il y avait beaucoup de choses à gérer », est-ce qu'on peut ajouter le fait que le fait de demander, le fait de contrôler, bien qu'on accueille ces demandeurs-là d'asile ou quoi que ce soit, va juste permettre une meilleure économie, une meilleure direction vers le travail, une meilleure intégration pour ces gens-là aussi au pays? Peut-être que c'est là où, des fois, on vient trop sensible à parler de ce sujet-là, puis ceux, finalement, qui prennent la porte quand il y en a trop, comme au Québec, on voit aussi avec la fin du programme PEC, c'est des gens qui auraient dû rester.
Bien, effectivement, c'est là que, lorsqu'on mentionne que la gestion de l'immigration au Canada depuis 10 ans, c'est un bordel monumental, ça fait partie de ça. Là. La gestion de l'immigration, à l'époque, était très bien faite. On avait des critères, on savait combien d'immigrants on avait besoin au niveau économique, on avait même des réunifications familiales et des réfugiés.
Sous quel ministre vous avez été impressionné?
Au fédéral, il n'y a pas aucun ministre d'immigration qui m'a impressionné. Puis celui qui est en place, honnêtement, elle n'a aucune compétence pour ça. Puis c'est pas personnel, c'est professionnel, là, ces propos-là. Là. Mais Mark Miller, qui était là, Mark Miller a beaucoup de caractère. Par contre, a pris une décision complètement ridicule. Lorsque le Québec se plaignait qu'il y avait trop de temporaires sur le territoire, Mark Miller a dit « OK, il a pris une décision radicale de couper à 10 % maximum les travailleurs étrangers temporaires. » Ça crée un problème actuellement massif dans les entreprises en région. Ça, c'est une décision unilatérale, fédérale, juste en réaction aux demandes de Québec.
Mais justement, parlant de ça, du fameux 10 %, là, c'est ce qui cause la problématique présentement avec le changement de programme au Québec. Jean-François Roberge demande à la ministre Diab, puis là, il a interprété Mélanie Joly aussi hier, de donner des permis de travail temporaires pour qu'ils puissent se qualifier dans le nouveau programme. Donc, est-ce que c'est vraiment la faute du Canada, ce qui se passe présentement au Québec, ou la CAQ a des responsabilités aussi?
Bien, la CAQ a dû vivre avec le problème d'avoir 600 000 personnes sur le territoire qui ont des permis temporaires. Donc, il y a eu 200 000 là-dessus, c'est des demandeurs d'asile, donc un impact massif pour les services publics, les écoles, les services de santé, etc. Après ça, des travailleurs étrangers temporaires, c'est une chose, mais les étudiants également, il y a eu beaucoup de faux étudiants ou des gens qui viennent ici sur des permis temporaires, mais qui finalement vont même pas à l'école. Donc ça, ce bordel-là a été accepté par Ottawa, n'a pas été contrôlé adéquatement par Ottawa. Donc, Québec s'est ramassé avec le problème. C'est pour ça que Québec a dit à un moment donné, écoutez, là, il y a trop de personnes sur le territoire québécois pour les ressources qu'on a. Donc, on a un problème. Mais au lieu d'avoir une gestion plus efficace à Ottawa, Mark Miller a pris une décision drastique, a coupé à des endroits où c'était la dernière place à couper. Donc, le 10 % pour les entreprises, c'est pas là le problème. Et on n'a pas voulu gérer, justement, les fameux demandeurs d'asile, parce qu'il faut savoir, actuellement, il y a, dans les centaines de milliers qu'on a à travers le pays, il y en a 86 000 qui ont été refusés d'asile au pays. Donc, ça, c'est des gens qui ont été évalués, puis qu'on a dit, ben non, écoute, tu viens pas d'un pays qui a du danger pour toi, on refuse l'asile. Puis, ils sont encore au Canada. Ils bénéficient encore des programmes sociaux, de santé, etc. Fait que c'est cette problématique-là que le fédéral ne répond pas adéquatement aux questions et ne prend pas les mesures efficaces. À un moment donné, il y a quelques années, quand on voyait ça, on disait, faites une équipe là, de choc de l'immigration, mettez tout le monde vraiment au travail pour accélérer les processus, puis let's go. Puis quand les gens sont refusés d'asile, ben malheureusement, vous devez quitter le pays. Là, vous n'êtes pas d'affaires ici, surtout sur les programmes sociaux. Là.
Mais c'est peut-être pour ça, si on le fait pas, que la problématique de la criminalité, quand c'est le temps, parce que là, on parle, par exemple, de ceux qui ne devraient pas être au sein du pays selon leur CV, tiens, leur curriculum vitae. Puis en passant, je déteste qu'on fasse une généralité et je déteste aussi qu'on soit dans les stéréotypes. Mais il y a quand même cette crédibilité-là au nom du pays qu'on doit aller rechercher, pas être ce que les États-Unis sont, on s'entend.
Non, c'est mais, ça, tu viens d'en dire.
Mais c'est là où la sensibilité aussi de la conversation nuit, je pense.
Ben effectivement, c'est toujours délicat. À chaque fois qu'on parle d'immigration, souvent le drapeau raciste apparaît. C'est moindrement qu'on parle de gestion d'immigration, on se fait boucher, on se fait fermer de clapet.
Ouais, on se fait traiter d'intolérant.
Mais ça, c'est entre parties.
De racisme. Moi, j'ai eu droit à ça, là, parce qu'on posait des questions dans le temps sur Roxham. Puis Justin Trudeau, à l'époque, lui-même, dans la Chambre des communes, m'a dit que j'étais raciste. Mais c'est parce que là, je faisais pas de distinction sur la race. Là. Moi, c'est une gestion de frontières tout simplement normale. On doit être plus efficace en gestion là, de ce qui se passe à nos frontières. Il n'y a pas de racisme là-dedans. J'ai eu la même version quand on demandait d'arrêter les avions qui venaient de la Chine dans le temps de début de la COVID. J'ai dit, faut arrêter les avions qui arrivent de Chine. Le virus arrivait de Chine. On me traitait de raciste parce que je parlais d'un avion avec des Chinois. Mais ça n'avait rien à voir. C'est que le virus venait de là. Il serait venu d'un autre pays, puis j'aurais dit la même chose aux autres pays.
Peux-tu vous poser une question?
Oui.
Qui va être un peu champ gauche. Parce que entre partis, là, que vous soyez de l'opposition ou vous soyez en poste et tout ça, on parlait de ça, Jean-François et moi, en pause récemment, mais il y a comme une facilité hein, de vouloir se piquer. Hein. C'est un peu ça le jeu politique. On est à l'opposition, on pique l'autre parti. On veut habituellement, bon, le travail d'équipe est un peu mieux accepté à ce niveau-là, mais c'est un peu des chiens de garde, le rôle de l'opposition. Cependant, sur des sujets aussi délicats que l'immigration, il n'y aurait pas un peu de maintenance, d'intelligence politique à appliquer, de ne pas venir juste critiquer pour critiquer, faire un rôle d'opposition sur des sujets aussi sensibles que l'immigration, parce que peu importe le parti qui se retrouve au pouvoir, au moment où ils auront besoin, parce qu'ils auront toujours besoin d'en parler, puis de peut-être mettre des lois, puis de peut-être ajuster des choses, il y aura l'opposition pour chialer, les critiquer de racistes, etc. Si c'en est un vrai cas de racisme, si c'est un vrai cas de généralité, de stéréotype, parfait. On va être aussi capables, citoyens, les gens qui commandent dans les médias, d'appliquer peut-être un discours en nom puis de faire un peu brasser les choses. Mais c'est pas un respect citoyen aussi de pas bloquer des discussions essentielles, mais vous juger sensibles par, justement, des attaques qui font pas de sens?
Oui, mais est-ce que nos attaques font pas de sens? C'est ça, là, ce qu'il faut voir, là, c'est que nous, ce qu'on soulève, puis ça fait des années, c'est une mauvaise gestion. Donc, où on en est, c'est les personnes en charge, lorsqu'on nomme un ou une ministre en poste, cette personne-là a une responsabilité de gérer un ministère, et le ministère de l'Immigration est très complexe. Donc,
mais mon point
était
global, sur la politique en général.
Ben, de façon globale, l'opposition, son travail, c'est de voir... Oui, on passe souvent pour des chialeux, mais en même temps, on soulève des enjeux où il y a des problématiques, où on peut proposer des solutions, mais souvent, on peut se faire retourner virer de bord en bon français, mais notre action va dans le sens de dire, on vit des problèmes, est-ce qu'on peut mettre des solutions en place. Et là, quand le gouvernement ne répond pas à ça ou revire du revers de la main nos demandes, c'est sûr que là, la tension monte. Mais il reste que, quand on parle d'immigration, par exemple, l'immigrant est toujours le plus grand perdant dans ces discussions-là. Parce qu'il y a des immigrants qui viennent au pays avec des attentes d'être bien reçus, de bien vivre, d'avoir une nouvelle vie. Puis ça, on est d'accord avec ça. Mais lorsque il y a une mauvaise gestion, puis qu'est-ce que vous voulez actuellement? Là, c'est le gouvernement en place, ça fait 10 ans qu'il gère ça tout croche. Ben, notre devoir, c'est de le soulever puis de demander d'être meilleur. C'est ce qu'on demande, mais c'est difficile d'avoir ces conversations-là.
Ouais.
Parce qu'effectivement, les débats, surtout, mettons, à la Chambre des communes, c'est sûr que c'est des questions de 30 secondes avec des réponses de 30 secondes. Il reste que du travail en comité qui se fait. Mais ça, le travail de comité n'est pas vu par la population. Les médias couvrent de temps en temps quand il y a des sujets chauds, justement. Mais quand c'est du travail vraiment professionnel de questions à des fonctionnaires, à des ministres, à des témoins, ce travail-là, on le voit pas. Mais il y a du travail qui se fait par les partis d'opposition, tout parti.
Non, en effet, mais là,
malheureusement,
la ministre Léna Diab ne fait vraiment pas le travail. On va souhaiter que votre demande soit entendue par le Parti libéral du Canada.
N'oubliez pas que ça vient des libéraux, c'est les libéraux qui soulèvent que leur ministre n'est pas compétent.
En effet. Merci beaucoup, M. Paulus, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui à l'émission On en jase. On vous souhaite un excellent après-midi. On se reparle bientôt.
Bye-bye, merci.
Merci. Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada, qui nous explique les problématiques au niveau de l'immigration au Canada. C'est pas juste au Québec qu'il y en a. Puis cet amalgame-là fait en sorte que présentement, bien, il y a des honnêtes citoyens ici à Québec qui ont un emploi qui vont devoir partir. Ouais. Puis il y a des demandeurs d'asile qui entrent sans entrevue. Puis il y a une ministre fédérale qui est tout mêlée là-dedans.
C'est incroyable quand même. Je me demande comment est-ce qu'on se rend là, parce que c'est difficilement défendable, on s'entend.
Mais ça.
Puis tu sais, c'est des projets de société, ouais, qui sont décimés. On parle de la santé. On parle de l'éducation, qui vont perdre de la main-d'œuvre importante qui s'est implantée. C'est un peu triste.
Yes. Circulation, Pascal?
Oui, on avait des incidents. Donc, on avait un sur l'autoroute 20 Est, hauteur route 116 à Saint-Nicolas. La voie droite qui était bloquée, entravée, il y avait une panne. Et il y en avait un autre, Jeff, du côté de Laurentienne Nord, sur la hauteur de la rue Soumande. Il y avait des débris. Heureusement, c'est terminé, mais ça a quand même un peu ralenti les secteurs.
Merci beaucoup pour les informations. 418-971-1021, si jamais vous constatez quelque chose sur la route. Rémi Villemur est avec nous dans un instant. On va parler de ce retrait des signes religieux dans nos écoles qui font en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui quittent leur emploi. Évidemment, Québec solidaire et le Parti libéral ont leur opinion. Parti québécois et la CAQ ont la leur. On va entendre celle de Rémi Villemur. Et Bernard Drainville qui s'attaque à la natalité. Ouf! Est-ce qu'il met le pied dans un panier de crabes? C'est ce que Rémi Villemur nous explique dans un instant à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.